tous, merci d'être avec nous sur RTL. On est ensemble pendant une heure pour découvrir la face cachée d'une personnalité. Soyez les bienvenus dans Confidentiel. Bernard Lavilliers est, par définition, l'homme des zones d'ombre. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'il a raconté toute sa vie, cet éternel conteur? Qu'a-t-il imaginé? La plus grande réussite de Lavilliers, au-delà de sa vingtaine d'albums, c'est certainement d'avoir créé une légende sans égale. D'ailleurs, faut-il vraiment chercher à décrypter le vrai du faux avec lui? Pas sûr que cela soit nécessaire et même que cela soit possible. Cette légende, c'est aussi celle qui a fait qu'à 78 ans, il vient de recevoir aux dernières Victoires de la musique un hommage extrêmement émouvant. On vous emmène aujourd'hui en voyage avec l'un des plus grands baroudeurs, l'un des plus grands conteurs, pour essayer de comprendre qui se cache derrière les incroyables récits d'aventure et ce qui l'a animé toute sa vie. Confidentiel Bernard Lavilliers, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai quelqu'un qui le connaît très bien, Véronique Mortaigne, journaliste et biographe.
Ophélie Meunier.
Confidentiel.
Sur RTL.
On est en novembre 2005 au Palais des Sports de Saint-Étienne. L'endroit a été transformé pour l'occasion en salle de concert. L'ambiance est électrique. Et pour cause, plusieurs milliers de Stéphanois sont venus assister au retour de l'enfant prodigue, Bernard Lavilliers. L'artiste vient de sortir Carnet de bord, c'est son album le plus vendu à ce jour, plus de 500 000 exemplaires, et il a décidé de faire escale chez lui, alors qu'il est au firmament. Ce concert a une saveur un peu particulière pour le chanteur. 30 ans plus tôt, en 1975, il avait sorti un autre disque, le Stéphanois. Cet album, dans lequel il rend hommage à sa ville natale, a marqué un tournant dans sa carrière. C'est à partir de cet opus-là, son troisième, que va vraiment se dessiner le style Lavilliers. De la chanson française en forme de carnet de voyage, avec des textes engagés et des musiques exotiques. Mais l'album Le Stéphanois représente aussi une pierre angulaire dans la création du mythe Lavilliers. Celui d'un musicien aux mille vies, d'un chanteur globe-trotteur qui raconte des histoires venues d'ailleurs, d'un auteur à l'imaginaire fertile et qui brise volontiers les lignes entre rêve et réalité.
Si tu vas à San Salvador, va voir la fin.
Ces histoires de femmes, ces histoires d'hommes et de pays lointains, Bernard Lavilliers les livre depuis les années 70. Et ce soir de novembre 2005, à Saint-Étienne, ça fait un bon moment que l'aventurier stéphanois ne s'est pas produit ici. C'est dire que celui qui porte si haut la fierté ouvrière locale est attendu. Car même si Lavilliers a beau vivre maintenant aux antipodes de ce monde, loin des hauts fourneaux et de la manufacture d'armes où il a travaillé dans le passé, ici, personne ne l'a oublié. Le Palais des Sports de Saint-Étienne se transforme en chaudron quand l'artiste entre sur scène pour chanter tous les titres qui ont fait son succès. Les Mains d'or, Betty, la salsa, Noir et blanc, On the road again. Le public ce soir-là, c'est l'un des leurs qu'il célèbre. Bernard a même ajouté spécialement le morceau Saint-Étienne à la setlist.
On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. La rue artérielle limite le décor.
L'émotion est palpable, vous l'avez compris. Dans la salle, mais aussi sur scène. Bernard Lavilliers est cueilli par l'ovation qu'on lui fait à la fin du concert. Jamais on ne lui a fait un tel accueil dans ce lieu. Ses parents sont là aussi, comme à chaque fois qu'il passe dans le coin. Le chanteur est devenu bien plus qu'un simple artiste reconnu. Une véritable légende locale, avec, on l'a dit, son lot d'histoires, de chansons et de récits de voyage. Les mille vies de Bernard Lavilliers s'étalent alors, au volant d'un camion en Amazonie, sur un ring de boxe à Rio ou chez Bob Marley à Kingston.
Voyage, il y a ce que l'on fait et ce qu'on imagine.
C'est vrai qu'on ne sait plus trop distinguer le fantasme de la réalité avec Lavilliers. Lui-même joue de cette ambiguïté. D'ailleurs, ne se présente-t-il pas régulièrement en aventurier de la chanson française? Quand la légende est plus belle que la réalité, gardez la légende. Cet adage, on peut dire qu'il l'a fait sien.
Toujours vers le danger d'ailleurs, enfin on l'imagine.
Il est bien loin le temps où il travaillait ici à la manufacture avant d'embarquer vers son destin. Cette période de sa vie est pourtant fondatrice dans la trajectoire de Bernard Lavilliers. Depuis ses années 60-70, sa guitare, sa légende et lui ont fait un sacré chemin, c'est vrai. De Saint-Étienne au Brésil, de la Jamaïque à New York, en passant évidemment par Paris. Mais c'est bien à cette époque, celle des Vaches Maigres, comme des premiers succès, qu'il faut remonter pour comprendre ce qui anime le chanteur globetrotteur, ce poète voyageur et ce conteur universel qui se cache derrière ses innombrables récits d'aventure. Bernard Lavilliers, sur les traces du baroudeur, c'est le grand voyage que vous propose Confidentiel aujourd'hui. Le grand voyage, avant d'y goûter concrètement, le futur chanteur l'a d'abord imaginé depuis Saint-Étienne. Car avant de devenir Lavilliers, le petit Bernard s'appelle encore Houlion, de nom de famille. Et pour l'instant, il est le deuxième enfant de Claudius et Georgette. Le père est ouvrier à la manufacture et un syndicaliste attaché aux valeurs de 1936. La mère a été institutrice. Tous les deux ne croient qu'à une chose, l'émancipation par la culture. Chez eux, il y a des livres partout. Georgette donne goût à la lecture à ses enfants avec les Fleurs du Mal de Baudelaire. Toute son enfance, Bernard sera biberonné aux mots des poètes, à leurs mélodies. Le soir, on écoute Eric Satie, Léo Ferré, Django Reinhardt, mais aussi de la musique cubaine. Le mambo, les congas, les maracas. Et le Bernard, il aime ça immédiatement. À l'école, son ancien instituteur l'a d'ailleurs repéré. Ce petit garçon solitaire et timide a quelque chose de différent des autres élèves. « Je sens qu'il fait partie des artistes », se dit-il. Alors son instinct l'encourage à sa manière, par exemple, il lui donne des poèmes à réciter devant toute la classe. Bernard aussi commence à sentir vibrer quelque chose en lui. Ou plutôt, quelqu'un. « Un artiste », dit-il. « Je voulais écrire, chanter, voyager. » Et ce voyage, il le débutera à travers un instrument, la guitare. À Saint-Étienne, il y avait des gitans, racontera Bernard Lavilliers. Dès que mes parents m'ont acheté ma première gratte, vers 12 ou 13 ans, mes potes gitans, voleurs de poules, m'ont appris à en jouer. C'était pas de la tarte, parce que eux en jouent super bien. Au départ, son père n'est pas derrière lui. Il ne croit pas à cette vocation d'artiste. Il lui lance un jour, soit un ajusteur de précision avant d'être chanteur de charme. L'apprenti musicien et grand rêveur se retrouve donc dans le dur, direction la manufacture d'armes de Saint-Étienne, pour travailler comme ouvrier. Pour ma mère, je suis devenu un homme quand je suis devenu un travailleur, quand je suis entré à l'usine et que j'ai rapporté des ronds à la baraque. Bernard travaille alors de nuit, et le jour, il le passe à noircir des cahiers d'écolier et à jouer de la guitare. Mais à l'atelier où le manuchard Houlion a été affecté, l'artiste Lavilliers, lui, pointe déjà le bout de son nez. Dans cet univers de mécanique, on dirait qu'il a déjà une vie parallèle. Le lundi, à l'embauche, il raconte déjà super bien les aventures extraordinaires qui lui sont arrivées pendant le week-end. Ses collègues, de par le peu d'intérêt qu'il montre à l'ouvrage, l'ont surnommé « Lime sourde ». Et il se paye rapidement une réputation de bonimenteur. Qu'importe, Bernard Houlion est déjà animé par cette fibre de conteur d'histoire. Et ses mêmes collègues, pas rancunier et toujours solidaire, viennent le soutenir pendant les premiers concerts de l'artiste en herbe.
Potence d'oubli, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine.
On est en juin 1965. Le jeune Houlion reprend Ferré ou Brassens, ici et là, dans les MJC et les amicales de la région. Et pour bien couper le cordon avec la manufacture et ce monde ouvrier qui l'a enfanté, il vient de se trouver un pseudonyme, Lavilliers. « Je me suis mise au monde », dira-t-il. « J'ai inventé ça, j'ai trouvé que ça avait un petit côté aristocrate de la rue qui va bien. » Bernard Lavilliers, l'artiste, vient de voir le jour. Le Stéphanois va bientôt faire ses adieux à Bernard Houlion l'ouvrier et à Saint-Étienne. Le poète et ses rêves d'ailleurs veulent aller voir ce qu'on trouve au-delà des laminoirs et des cheminées d'usine. À 19 ans, voilà donc le futur globetrotteur Bernard Lavilliers sur le point de mettre les voiles.
Une vapeur d'amour, la la faveur d'un détour.
1965, Bernard Lavilliers quitte Saint-Étienne. L'appel du large était trop fort, vous l'avez compris. Ses rêves de voyage commencent alors. Il raconte en 2004 au journal Le Temps, « Quand j'étais à l'usine, à Saint-Étienne, il faisait très froid. Je travaillais la nuit, je faisais mon boulot consciencieusement, mais je n'en pouvais plus. Alors je me suis barré au Brésil. J'avais vu le film Orfeo Negro. Ce n'était pas une fuite, je m'entendais bien avec ma famille. Mais je voulais vivre l'aventure, ne plus être dans le fatal, vissé au destin d'un ouvrier. » En cet été 1965, Bernard Lavilliers est donc en route pour le Brésil. Le Brésil, sa bossa nova et sa samba. Cette musique qui vient tout droit des favelas et qui le fascine tellement. Selon la légende, ce voyage initiatique aurait eu lieu au hasard d'une rencontre. Un soir, dans un bar de Saint-Étienne, il aurait fait la connaissance d'une hôtesse de l'air pour qui il aurait eu un coup de foudre et il aurait pris un vol pour Rio. On adore l'histoire. De là, sans un rond et sans parler le moindre mot de portugais, il aurait pris, seul cette fois, la route de Salvador de Bahia. Je continue l'histoire. Il se serait amouraché d'une Brésilienne, il y serait resté un an, aurait travaillé comme docker, avant de prendre la direction de Belém, au nord d'un pays mené de main de fer par une violente dictature militaire. Grâce à un ancien légionnaire français, Bernard conduit alors des camions de bois précieux sur des pistes amazoniennes. Au volant d'un gros cul, avec son Marcel trempé de sueur et plein de cambouis, Bernard se la joue salaire de la peur. Surtout qu'il y aurait même fait un séjour en prison. La légende Lavilliers est clairement en route. Tout son personnage aventurier, c'est important, se fonde vraiment sur cet épisode brésilien. Comme un premier chapitre prometteur d'une saga romanesque qu'on ne demande qu'à poursuivre. Ces 18 mois, on ne sait pas trop, passés au Brésil, viennent d'ouvrir les perspectives musicales de Lavilliers. Sauf qu'à en croire le biographe Michel Camper et son livre « Les Villiers de Lavilliers », ce goût pour la musique brésilienne aurait tout aussi bien pu naître complètement ailleurs. À Paris, tout simplement, et plus précisément dans les environs de la rue Mouffetard, où on retrouve la trace de l'artiste en 1966. C'est là, dans un quartier latin en pleine ébullition, que Bernard se produit dans les cabarets du coin, quand il ne fait pas la manche ou le barman. À cette époque, il se lie d'amitié avec un certain Pierre Barrault. Ce musicien, justement, revient tout juste du Brésil, pays que lui connaît vraiment bien, ça c'est sûr. C'est l'un des premiers à avoir importé la bossa nova et la samba en France. Et dans la capitale, il n'est pas seul à avoir jeté son dévolu sur cette musique qui nous vient tout droit de l'hémisphère sud. À Paris, le Brésil est à la mode. Cette même année 66, Claude Nougaro vient de sortir Bidonville, une adaptation du morceau Berimbau. Lavilliers, de son côté, travaille dur sa guitare brésilienne et il s'imprègne de ce chant qui relate aussi bien les joies d'un peuple que ses souffrances. Bernard fréquente à cette époque à Paris toute une communauté d'exilés qui fuient l'oppression militaire. Des musiciens, des poètes, des intellectuels. Tous ces Brésiliens lui parlent de leur pays pendant des nuits entières. Le soir, il joue sur la scène du Discophage. C'est un club où se retrouvent les Brésiliens de la capitale et où défilent les meilleurs musiciens. Lavilliers n'en perd pas une miette, il est fasciné. Alors a-t-il transformé son aventure d'un soir, vous savez, avec l'hôtesse de l'air, en grande aventure brésilienne? Ou Bernard le rêveur, Bernard l'insatiable lecteur, a-t-il simplement imaginé ce grand voyage initiatique à partir de ses rencontres et de ses sons tropicaux qui l'inspirent tant? Lui seul le sait vraiment. Et justement, à ce sujet, il jouera toujours la carte de l'ambiguïté. En 1975, il lâche un évasif « Si le Brésil n'était pas si loin, je crois que je l'aurais inventé. » Quelques années plus tôt, en 1972, il a pourtant fait une confidence assez étonnante à un journal stéphanois, une confidence qu'on pourrait presque prendre pour un aveu. « Je n'ai encore jamais mis les pieds dans ce pays, » dit-il. « Mais je crois que je le connais comme si j'y avais vécu 20 ans. À Paris, je n'ai pour amis que des Brésiliens indésirables chez eux, où règne un régime policier. » En ce milieu des années 70, Bernard Lavilliers, le chanteur, n'est pas encore connu du grand public. Il ne va pas tarder à faire parler de lui. Mais Lavilliers, le baroudeur, a lui déjà bien commencé à écrire sa légende. On est en mars 1979. En quelques années, Bernard Lavilliers est entré dans le paysage musical français. Avec les albums Le Stéphanois, puis Les Barbares, Lavilliers est passé du statut de quasi-inconnu à celui de chanteur marginal et talentueux de la chanson française. Mais c'est sur scène qu'il prend tout le monde de court. Suite à son passage à l'Olympia fin 77, un critique écrit « On a assisté à l'explosion de la plus forte charge de dynamite poétique depuis Brel ». Rarement un artiste n'avait soulevé autant une salle. Lavilliers est une bête de scène. Son passé, ses textes, ses concerts, l'artiste est une sorte de déflagration. Il a à peine 32 ans et il est déjà une légende de la chanson française.
Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi.
Les concerts s'enchaînent, mais Lavilliers ne renie pas ses rêves d'ailleurs. À l'intérieur de lui, le baroudeur trépigne. Il est grand temps de reprendre la route. Ses premiers succès lui ont permis de s'installer avec sa famille à Saint-Malo. Il s'est même acheté un bateau qu'il a baptisé le Corto Maltese, du nom de ce marin de bande dessinée qui mène une vie d'aventure aux quatre coins du globe. Bernard est aussi un lecteur boulimique. Il ne loupe pas un album de ce héros qui nourrit évidemment son imaginaire de voyageur. Depuis la cité corsaire, Bernard contemple le large et rêve de mettre les voiles. C'est la musique qui l'aidera à choisir sa prochaine destination. Voilà donc le chanteur globe-trotteur qui embarque pour le Nouveau Monde au printemps 1979. Première escale, la Jamaïque. Pour son nouvel album, Lavilliers veut revenir à ses rêves de voyage. « Je n'étais pas parti pour faire un disque, mais pour partir », dit-il. Avec les tournées en France, je n'avais pas bougé depuis trop longtemps, j'avais envie de respirer. Il n'empêche que Bernard a envie d'aller voir de plus près d'où vient ce son reggae et ce Bob Marley qui sont en train de déferler sur les ondes de la planète entière. Et son aventure jamaïcaine commence dès sa sortie de l'avion. C'est reparti pour une histoire. Le chanteur et sa compagne débarquent à Kingston de nuit, en pleine tempête tropicale. Le couple s'engouffre dans un taxi, direction l'hôtel. Sauf que le soi-disant chauffeur de taxi a une toute autre intention, les conduire dans un endroit tranquille pour les braquer. À l'époque, le pays vit quelques tensions politiques, on en parlait dans un précédent confidentiel sur Bob Marley, et il n'est pas si rare de retrouver des cadavres de touristes dans la capitale jamaïcaine. La voiture a donc pris une route isolée. Mais le chauffeur est un piètre conducteur et avec cette pluie battante, sans essuie-glace, le véhicule fait une sortie de route et se retrouve sur le toit. Tout le monde est sonné, le chauffeur s'enfuit, les deux Français ont de la boue jusqu'aux cuisses, ils réussissent quand même à récupérer leur sac et leur guitare et vont finir par arriver jusqu'à leur hôtel en stop. Les jours et les semaines suivantes, sans aucune connexion locale, Lavilliers essaie de mieux comprendre le pays et de remonter le fil de la musique jamaïcaine. Il se balade à Kingston, il se rend à Trenchtown, le ghetto de Bob Marley. Un jour, il atterrit dans un magasin un peu foutraque où on vend à la fois des disques, des casseroles et des chaussures. Mais dans l'arrière-boutique, un groupe répète. Les Gladiators. Nanar s'imprègne. Il prend des notes. Il jette des mots sur ses cahiers d'écoliers qui ne le quittent jamais. À deux pas de son hôtel, Bernard continue en parallèle de son imprégnation musicale ses entraînements de boxe. Il en faisait déjà à Saint-Étienne. Un grand Jamaïcain baraqué lui sert de partenaire. De fil en aiguille, les deux boxeurs sympathisent. À première vue complètement anodine, cette rencontre va en provoquer une autre, et pas des moindres. La suite, c'est Bernard Lavilliers qui l'a raconté en novembre 2023 au micro de RTL. Bonsoir.
Bob Marley m'avait conseillé ce groupe et ce studio-là, pas le plus cher. Et il n'y a rien à faire. C'est quand même eux qui ont créé le reggae, les Jamaïcains. Et c'est pas la peine d'essayer d'en faire en dehors. Enfin, moi, je préfère retourner.
Quoi qu'il en soit, ici.
Oui, parce que il y a quand même un truc. C'est comme les latino-new-yorkais jouent pas pareil que les cubains. Je vous le dis tout de suite.
C'est pas la même chose. Bob Marley là, parce qu'on dit ouais, Bob Marley m'a conseillé. Mais comment on le rencontre, Bob Marley? Vous l'avez rencontré comment vous?
Je l'ai rencontré. J'ai pris mon temps parce qu'il était pas là. De toute façon, au départ, rencontrer Bob Marley qui est pas tellement un grand bavard et qui les blancs, c'était pas vraiment son truc, mmh. surtout à l'époque là-bas. Il nous appelait Blood Cloud, Tampax. Ah ben oui. Et finalement, entré dans une salle de boxe, toujours pareil, je tombe sur un genre d'Holyfield comme ça. Et il voit ma technique. Et je lui dis, attends, bouge pas, tu fais 1m98 et 120 kilos, on va y aller doucement. Et puis après, on devient pote parce que de toute façon, c'est pas pareil. Les sportifs, il n'y a pas une histoire de couleur là. Enfin, normalement. Et alors, c'était le garde du corps de Bob, lui. Et voilà, c'est tout. Et, mais parce que j'aurais pas osé aller emmerder Bob Marley, en lui disant oh, je suis français, j'écris des chansons, je sens pas ce truc-là.
Lavillier rencontrera Bob Marley chez lui, à Hope Street. Dans son livre Écrire sur place, il relate: Marley parlait peu. Les silencieux m'impressionnent toujours. Il avait déjà le crabe, mais ne le disait à personne. Il était en train de finir de construire le studio Tuff Gang. Il avait écouté une de mes chansons. La star du reggae lui offre une bague rouge, verte et jaune, les couleurs des Rasta, et le conseille sur les musiciens et les studios. Arrivé dans le Saint des Saints, et tout imprégné des vibrations de la ville, Lavillier enregistre sur place et dans la foulée Kingston et Stan de Ghetto. Le chanteur Globetrotter vient de mettre en boîte une chanson qui deviendra l'un de ses plus grands succès. De retour à Paris avec ses bandes sous le bras, Lavillier le baroudeur n'a qu'une envie, reprendre le large. Plusieurs mois après son périple jamaïcain, Bernard Lavillier veut réussir le même pari qu'à Kingston et capturer l'essence d'une autre musique latino-américaine. Direction donc New York. Oui, New York. Quand Lavillier s'envole pour la Grosse Pomme à l'automne 79, il cherche d'abord à capter l'énergie de Manhattan, celle des punks, des dealers ou des prostituées de la 42e rue. Il loge à l'Hôtel Navarro. C'est le QG des musiciens rock de l'époque. C'est là que les Rolling Stones ou les Who ont établi leur base arrière quand ils sont en tournée aux États-Unis. Lavillier fréquente le CBGB, où se produisent les New York Dolls ou Patti Smith. Il commence ses enregistrements au Power Station sur la 52e rue. Dans le studio d'à côté, il y a Bruce Springsteen. Les deux artistes se parlent, le courant passe bien, ils poursuivent au restaurant, puis en boîte de nuit. Lavillier racontera cette soirée quelques années plus tard dans une interview. Dans cette toute petite boîte de rock, il y avait Bowie. Soirée superbe, Springsteen fait un bœuf, me joue des trucs au piano. On est devenus potes ce soir-là. Mais à Manhattan, Lavillier va aussi découvrir un autre aspect plus inattendu de la ville américaine. Un soir, le Stéphanois débarque au Corso. C'est un ancien théâtre du Lower East Side. Deux étages, rythme endiablé, des belles sud-américaines de la Big Apple qui se déhanchent. Il est le seul blanc de la boîte. C'est Raquel, une portoricaine, qui lui a donné rendez-vous là. C'est elle qui va l'initier au New York latino, celui des boîtes clandestines et des salles de jeux enfumées. Ni une ni deux, Bernard s'installe dans le Spanish Harlem. Dans ce quartier hispanique où partout, il entend cette musique chaude et cuivrée. Et la fièvre le gagne à son tour. En une nuit, il écrit un morceau qu'il va présenter dès le lendemain matin à un producteur, un certain Luis Ramirez. C'est le Quincy Jones de la salsa. Car c'est bien de salsa qu'il s'agit. Lavillier vient d'accoucher d'un texte et d'une rythmique qu'il connaît en fait encore très mal. Il est 9h du matin. Un percussionniste tout endormi lève péniblement la tête de ses congas. La nuit a été difficile. Il s'appelle Ray Barreto. C'est un cador du genre. Il commence à jouer la chanson de Lavillier. D'autres musiciens qui arrivent au compte-gouttes les rejoignent. Vous voyez la scène. Le minot de Saint-Étienne est dans ses petits souliers. Devant lui, il a toute la crème de la salsa qui est en train de faire tourner son morceau. Sacré baptême du feu. Derrière la vitre du studio, Luis Ramirez fait signe à Lavillier de commencer à chanter. Il se jette à l'eau.
Tout le gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba.
En écrivant et en enregistrant sur place, comme à Kingston, Lavillier a encore réussi son pari. Sa salsa est une véritable carte postale audio du New York latino de cette fin des années 70. Le chanteur voyageur est vraiment en train de trouver son style. Chanter des histoires venues d'ailleurs, qui parlent des gens et sur des musiques qui leur ressemblent. Une dernière escale lui paraît essentielle pour achever ce nouvel album, et pas n'importe laquelle pour Lavilliers le baroudeur, puisqu'il s'agit de celle où tout a commencé, le Brésil. On en a parlé, Lavilliers a une véritable histoire d'amour avec le Brésil et sa musique, la bossa nova, mais surtout la samba. En cette année 79, ce voyage là-bas sonne donc comme un retour aux sources pour le chanteur voyageur, mais aussi comme un moment clé de son histoire. Car souvenez-vous, c'est ici que s'est écrit le début de sa légende.
Le cavalier que je croise sur son cheval roux, son fusil en bandoulière qui tire des clous, a traversé ce désert, la sèche et la boue, pour chercher quelques cruzeiros à Caruaru.
Ce Brésil, il l'a découvert dans les livres de Blaise Cendrass ou par le film Orfeo Negro. Et il l'a ensuite maintes fois parcouru, que ce soit dans ses rêves ou en camion. Mais cette fois, ce qu'il ramène de Rio, c'est du concret. De la musique enregistrée ici même, dans la cité Carioca, à deux pas du pain de sucre, des plages de Copacabana et d'Ipanema. Ce gringo qu'il chante, cet étranger qui débarque pour la première fois dans ce pays, qui ne parle pas portugais et qui se prend le Brésil en pleine gueule, avec sa misère, sa violence, sa beauté aussi. Vous l'avez compris, ce gringo, quelque part, c'est un peu lui. Alors finalement, que ce soit il y a 15 ans ou en cette année 79, peu importe, Lavilliers est de retour chez lui au Brésil, un pays où il aurait pu naître. Pour le baroudeur, la vie et la légende ne font plus qu'un. Le public ne le contredira pas, et même, il adoubera ce chanteur globetrotteur qui parfume ses textes de musique tropicale. À sa sortie en 1980, l'album O Gringo est un grand succès populaire, celui qui ouvrira la voie au mythe du Lavillier voyageur, celui du Corto Maltese, de la chanson française. Par la suite, Bernard Lavilliers fera beaucoup d'autres voyages à travers le monde. Haïti, Argentine, Vietnam, Salvador, Nigeria, Liban, Nicaragua, Cap-Vert, Congo, Afrique du Sud et bien sûr encore le Brésil. Toutes ces nouvelles aventures feront naître des albums, des chansons, des reportages aussi. Pour Lavilliers, le voyage commence dès qu'on l'imagine, comme il le dit dans Écrire sur place. La littérature est essentielle pour imaginer, rêver en amont, créer une sorte d'alchimie. Avant de partir, je lis des livres, je les relis, j'en emporte, puis je sors dans la rue. Je me balade, je cherche les odeurs, les atmosphères, les lumières, je regarde, je croise des gens. J'ai envie de voir comment le monde marche et d'écrire sur place. Une fois sur place, le Lavilliers baroudeur se considère comme le porte-voix de la colère des sans-voix. Le globe-trotteur se mue en conteur. Ses histoires rapportent les mots, M-A-U-X, des peuples opprimés, des enfants soldats, ou des chanteuses au pied nu. La poésie et la musique sont ses meilleures armes. Depuis les fameux laminoirs de la manufacture de Saint-Étienne, Bernard Lavilliers aura vécu 1000 vies. Il aura aussi écrit 1000 chansons et connu 1000 pays. Et ce soir du 9 février 2024, 44 ans après la sortie de O Gringo, le Brésilien de cœur est sur une île. Oui, mais bien loin des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Une île minuscule coincée entre deux rives de la Seine. Cette île aux portes de Paris représente à elle seule la trajectoire de l'homme, Bernard Lavilliers, l'île Seguin. Ce site a lui aussi un passé ouvrier, du temps de l'usine Renault. Elle est devenue un lieu incontournable de la musique, depuis qu'elle héberge une belle salle de concert, la Seine musicale. C'est là que Lavilliers sera sur scène le 28 mars 2024 avec un orchestre symphonique. Et justement, 2 mois auparavant, en ce soir du 9 février, c'est là aussi que se déroule la cérémonie des victoires de la musique. Bernard Lavilliers doit y recevoir une victoire d'honneur. Pour reprendre ses plus grands titres, il y a le duo stéphanois Terre Noire, Jeanne Chéral, Olivia Ruiz ou encore son amie Catherine Ringer. Devant cet hommage poignant, Lavilliers le baroudeur a du mal à retenir ses larmes. C'est donc l'artiste qui monte sur scène pour entonner un émouvant noir et blanc. Tout Lavilliers est là, résumé en quelques mots. Un artiste continuellement entre deux rives, qui chante un message universel, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Il y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Font grincer les dents du grand libérateur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais, une chanson qui nous ressemble. C'est la voix de Mandela, le tempo Dr. Fela. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Confidentiel
RTL.
Ophélie Meunier.
Bonjour Véronique Mortaigne, bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, biographe, critique musicale et auteur de ce livre rédigé avec Bernard Lavillier, Écrire sur place, c'est aux éditions des Équateurs, un titre qui en dit long hein, sur lui, Écrire sur place. On va y revenir évidemment, mais je rebondis d'abord sur la fin de notre récit de Confidentiel. Comment il l'a vécu de l'intérieur, cet hommage vibrant qu'on lui a rendu aux dernières victoires de la musique?
Il était étonnamment d'ailleurs extrêmement ému.
Ému, ouais.
Très très ému. Il avait, ouais. il a pleuré tout le temps. En plus, Sandrine Bonnaire est arrivée parce que c'est une grande amie à lui, avec qui il va chanter parfois dans des bars, etc. Donc, elle arrive, c'est une surprise. Il est encore plus ému. Après, il y a Catherine Ringer. Il y a une bande de fous un peu comme ça. Hein.
Ouais, ouais.
Et la folie quand même est une caractéristique de l'artiste. Donc, il le vit de l'intérieur parce que justement, il y a beaucoup de surprises et que ça. Ouais. Ça le touche plus que les honneurs, hein, finalement, puisqu'il a un peu, d'une part, l'habitude, et d'autre part, un peu de distance par rapport aux honneurs rendus. D'ailleurs, il n'en a pas eu tellement. Mais voilà, là, c'est le côté humain, comme ça, le côté surprise qui le déstabilise aussi. Hein. Vraiment, il a le mouchoir, l'œil qui pleure, donc c'est très touchant.
Oui, et puis on a vu que ça ne s'est pas arrêté de la soirée. C'est ça qui était du moment, en tout cas. Et c'est vraiment, il n'a pas arrêté d'avoir cette émotion qui était vraiment visible sur son visage. Vous parliez des honneurs. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas spécialement cherché au cours de sa carrière, d'aller chercher les récompenses, les statuettes. Pas quelque chose qui l'intéressait plus que ça.
Ni les légions d'honneur, ni ce genre de choses. Quoi. Ouais. Bon. Après, si vous voulez, il y a beaucoup d'artistes que ça n'intéresse pas non plus. Hein. Mais lui, il est cohérent dans son parcours politique, dans sa manière de penser. Et donc, il est un petit peu en dehors de tout cela. Les honneurs pour lui sont ailleurs.
Je reviens aux dernières victoires de la musique. Donc, plein de surprises. Il ne s'attendait pas, il savait évidemment qu'il allait recevoir cette victoire d'honneur, mais il ne s'attendait pas à ça, à ce moment-là, avec ces surprises-là, de cette manière-là. Il a été cueilli.
Il a été cueilli, c'est un moment particulier parce qu'il a revisité tous ses succès, ses chansons, de manière symphonique, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait symphonique. C'est avec un orchestre symphonique, mais en même temps, il y a un travail musical incroyable qui a été fait autour de ses chansons les plus célèbres, enfin, pour la plupart. Hein. Il y a une nouveauté aussi dans ce qu'il propose, qui s'appelle Bandera Rossa, qui est tout à fait politique et qu'il a mis dedans. Et donc, pour lui, quand même, revenir sur le gringo, revenir on the road again, etc. Il l'avait fait en acoustique, mais là, c'est en grande pompe. Hein. Mm-hmm. Et il entame une tournée qui le rend un petit peu nerveux, d'ailleurs, parce que c'est pas facile de tourner avec un symphonique.
Donc, il est un petit peu stressé, là.
Il est un petit peu stressé, ouais. Mais oui. Et donc, pour lui, c'est un enjeu. Et cette victoire d'honneur, elle arrive à ce moment-là où il y a quand même un regard jeté sur le passé, tout en créant de la nouveauté, parce que le encore une fois, le travail musical où il y a quand même du jazz, de la comédie musicale, un grand orchestre, des valeurs classiques, c'est tout à fait particulier quand même, hein, comme travail. C'est très réussi.
On se dit toujours qu'avec des carrières pareilles, ces artistes-là, ils ont plus le stress quoi avant de monter sur scène. Bah si, il y a encore à 77 ou 78 ans, il y a encore cette angoisse avant de d'arriver devant le public.
Moi j'ai toujours admiré les chanteurs, si vous voulez, parce qu'ils arrivent devant c'est la fosse aux lions, quoi. Ouais. Et le chanteur, quoi qu'on fasse, il est tout seul. Hein, c'est-à-dire que quand vous faites une pièce de théâtre, vous êtes au cinéma, il y a une équipe. Et bon, là, il a des musiciens, il a d'excellents musiciens, il joue avec. Mais quand même, s'il y a un couac, même du guitariste, c'est Bernard Lavilliers.
C'est sur lui que ça repose. Ouais.
C'est sur lui que ça repose. Et tous les grands interprètes, que ce soit dans la lignée française, les Gréco, Ferré, enfin tout le monde avait toujours ce stress parce qu'ils portent la responsabilité seul. Donc c'est pas partagé.
Mais l'image de la cage au lion est très très bonne.
Voilà, et quand on arrive, c'est Gréco qui disait ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à maîtriser la salle du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire voir dans le fond, dans le noir, la dame qui est au dernier rang et qui va dire mais pourquoi elle a chanté ça comme ça, etc. Donc c'est vraiment...
Je vois bien. Il y en a toujours un comme ça dans le public.
Toujours, forcément, il y a le fan déçu, il y a
c'est toujours celui ou celle sur lequel, à un moment donné, les yeux de l'artiste se posent.
Exactement, et donc et Gréco disait ça, parce que les jeux de main, par exemple, et tout, c'est fait aussi pour aller regarder derrière. Et donc Lavilliers, d'une certaine manière, même s'il est rocker, etc., c'est un artiste à l'ancienne, on va dire, hein. Il ne fait pas de playback, rien de tout cela, et par conséquent, il est obligé d'utiliser effectivement des remèdes de grand-mère, si je puis dire, pour passer ce stress et cette compétition énorme qui est pour un chanteur de maîtriser une salle.
Aux dernières victoires de la musique, est-ce qu'on peut dire, Véronique Mortaigne, que c'était la consécration d'un marginal, d'un mec hors système par le système?
Alors, il est hors système et il n'est pas hors système, hein, il y a toujours un pied dedans,
ben,
un pied,
ça. Voilà. Ça, c'est la vie.
Et bah bien sûr, parce que en fait, il fait son travail, il fait son métier d'artiste, il le fait très très bien, il est bien entouré, et disons que oui, il est marginal, mais il n'est pas poète maudit non plus, hein, donc pas du tout. Donc il joue le jeu du commerce, on va dire, hein, donc qui est parce que sinon ça ne pourrait pas marcher. Mmh. Et oui, il est consacré, mais en même temps, encore une fois, cette consécration, elle est peut-être pas essentielle pour lui, même si elle est très touchante. La consécration pour lui, c'est de continuer à travailler déjà. Et là, il prépare un nouveau disque brésilien, d'ailleurs, pour 2026. Et pour lui, c'est plutôt ça, le sens de la démarche, c'est qu'il y a des étapes, il continue à les suivre, il est toujours pas tombé.
On n'est pas sur un adieu annoncé.
Non, j'ai pas l'impression.
On n'a pas l'impression. Et il va jouer fin mars, donc avec cet orchestre symphonique, en tout cas ce concert un peu particulier dont on parlait. Il va jouer fin mars à la scène musicale sur l'île Seguin. Alors évidemment, avant d'être un haut lieu de la musique, on le redit, c'est un lieu synonyme de pénibilité, de travail, de courage, de solidarité. Il est tout ça aussi, Lavilliers, toujours aujourd'hui.
Bah bien sûr, parce qu'il a, fait.
Il ça a va être un lieu symbolique pour lui. Il va avoir une émotion particulière, vous pensez?
Ça s'est beaucoup transformé quand même, hein, la scène musicale. Ouais. Mais lui, il garde la mémoire de tout ça. C'est comme si c'était un peu inscrit dans sa chair, d'une certaine manière. Parce que de fait, qu'on le veuille ou non, effectivement, il a connu cette classe ouvrière cosmopolite avec beaucoup de migrants quand il était à Saint-Étienne. Ensuite, quand est arrivé mai 68, et un petit peu avant et un petit peu après, il est allé chanter dans les usines, il a pris sa guitare. Oui, c'est un chanteur engagé, entre guillemets, comme on dit. Et de fait, ça, mais quel que soit le lieu où il chante, j'ai quand même l'impression qu'il a gardé quand même inscrit en lui, dans sa manière de chanter, et dans ses chansons aussi, cette mémoire, si ce n'est ouvrière, en tout cas combative et combattante.
Donc que ce soit à la scène musicale ou ailleurs, et en tout cas il est toujours dans cet état d'esprit-là. De cet homme qui trimait justement à l'usine, on est donc arrivé à une véritable légende dont on raconte l'histoire dans ce confidentiel. Alors que s'est-il passé entre les deux? Qu'est-ce qui l'a le plus animé, Véronique Mortaigne?
Lui dit que c'est la poésie.
Ouais. Et celle de Baudelaire, celle de, ben, de son enfance.
Qu'il a découverte.
Celle découverte avec sa
qu'il
maman.
A découverte à Saint-Étienne avec, avec des gens anards, hein, qui aimaient la poésie, avec sa famille, qui aimait la musique et qui aimait la poésie également. Je crois que la poésie est un moteur essentiel pour Bernard Lavilliers. C'est très étonnant, parce que moi je l'ai vu, par exemple, réciter du Blaise Cendrars dans le texte, mais il peut faire une demi-heure de Blaise Cendrars sans aucun problème. Il a
Fabuleux.
Toujours un poète à citer, comme c'est un conteur, n'est-ce
ouais,
pas? Donc
ouais.
Ça prend tout de suite une forme, ça tombe bien à propos.
Ouais.
Sur scène, parfois, il récite des poèmes. Pour lui, je pense que ça, de ce jeu avec les mots qui permet d'aller explorer des zones interdites, des zones auxquelles on n'a pas accès dans la vie quotidienne quand on ne se branche pas sur une autre fréquence sur laquelle il nous branche lui. Je pense que
l'image
ça, c'est le moteur essentiel. Et après, il y a les voyages, évidemment, et puis toutes les musiques qu'il a entendues et qu'il a jouées sur sa guitare, parce qu'il joue très bien.
Ce voyage initiatique au Brésil dont on parle, donc à l'âge de 19 ans, qu'il ait vraiment eu lieu ou pas d'ailleurs, c'est clairement le début de la création de la légende.
Oui.
Ou c'était même
et non,
encore
parce
avant.
Parce que.
Ah, donc vous dites oui et non.
C'est-à-dire que le Brésil a été extrêmement important, et l'est encore, parce que, comme je vous disais, il va préparer un album brésilien, il va partir au Brésil.
Brésil est en tout cas aussi synonyme d'avenir.
Voilà, aussi synonyme d'avenir, exactement. Je ne sais pas si on peut dire que c'est fondateur. Ce qui est fondateur, c'est le voyage. Mais lui, il a cette capacité. Il a cette capacité, par exemple, à voyager à Metz, puisque le livre, d'ailleurs, on l'a commencé par la Lorraine.
Ouais.
On aurait pu le commencer par le Brésil, de fait, mais on l'a commencé par la Lorraine, puisqu'il est au buffet de la gare de Metz, et il observe ce qui s'y passe. Et il voit là la déconfiture de la vallée des Anges, il voit l'époque des blousons noirs, des soldats de garnison qui s'arrêtent à Metz, parce qu'il y en a partout.
Mais il le dit, le voyage commence là où on l'imagine.
Ben, oui, le voyage commence là où on l'imagine. Et lui, il voyage au buffet de la gare de Metz, parce qu'il y a le couteau et la fourchette. Il y a un côté populaire qui est le couteau où s'arrêtent effectivement les soldats qui attendent toute la nuit pour changer de train, puisqu'il y a tous les camps militaires dans le secteur. Et puis, il y a beaucoup de drogue qui arrive aussi à cette époque, beaucoup d'héroïne qui transitent par là. Et puis, il y a la fourchette où on mange très bien, c'est le restaurant chic, etc. Et lui, il est au milieu. C'est un impressionnant comme établissement, le buffet de la gare de Metz, c'est quand même de manière architecturale assez impressionnant. Il joue dans une cave, il y a toute cette population d'insoumis qui en fait tiennent des petites salles, etc., avec qui il est, notamment à Metz. Donc on a commencé par là, parce qu'effectivement, pour lui, s'il y a un exotisme, il est partout où il va découvrir des choses nouvelles qu'il ne connaît pas. Et en fait, c'est ça le voyage, d'une certaine manière. Après, quand il vient à Paris, il va au Discophage, effectivement, et ça, c'est une boîte, une petite boîte, une cave, un café, cabaret, théâtre, etc.
Les Brésiliens de la capitale.
Pas que les Brésiliens, il y avait tous les dissidents sud-américains. Qui était là, et puis des gens effectivement qui venaient tard le soir rêver à des ailleurs, et dont le patron Karl avait une vie assez incroyable. qui était lié au Vietnam, enfin l'Indochine à l'époque, etc. Et qui, de ce fait, oui, il va au Brésil, Karl, et il veut acheter des terres, je sais pas, il emmène Bernard, c'est ça la version plausible.
Oui. Hein? Et, voilà. Et c'est celle-là qu'on garde. Est-ce que cette carrière a été aussi beaucoup nourrie de ses rencontres? Puisque ça, qu'est-ce qu'il en parle alors? Des rencontres incroyables qu'il a faites quand même.
Oui, parce que quand il part en voyage, c'est ce qu'il explique, qu'en fait, il va pour découvrir des territoires, mais surtout, et ça c'est une nouveauté parce qu'il n'avait jamais tellement dit, il va chercher des musiciens. Il va chercher des musiciens, il va à New York, il se dit...
Des musiciens locaux, quoi.
Ben, des musiciens importants. Hein, c'est-à-dire que quand il fait le Gringo, par exemple, alors il part à New York et il se dit, qu'est-ce qu'il y a de neuf à New York? Et il y a la salsa. Donc la salsa qui était déjà arrivée à Paris par Pierre Goldman, etc., qui est déjà un petit peu partout. Et lui, il n'a jamais prétendu être un pionnier de la salsa. Mais il va à New York et il cherche des salseros, etc. Et ça marche.
Ouais.
Parce que d'abord, il fait les chansons.
Louis Ramirez et tous ces musiciens.
Et il va effectivement jouer avec Ray Barreto, etc. Donc, alors, quel que soit le discours qui l'entoure, c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont joué avec Barreto et tout à l'époque.
Ouais. Donc,
bref. Après, il se dit, je vais aller ailleurs. Alors, il fait aussi un truc très tendu, très rock à New York, qui donne bien un petit peu la consistance de cette ville à l'aube des années 80. Il va en Jamaïque, et en Jamaïque, il cherche des musiciens. C'est la même chose, c'est la même démarche. Il va au Brésil, il va dans le Nord-Est, qu'il connaissait déjà. Et là, il va chercher le Quintet Violado, qui est un groupe de gens extrêmement novateurs qui reviennent sur la culture hispanique du Nord-Est du Brésil. Il est très savant hein, dans ce qu'il cherche.
Ouais.
Et il va enregistrer avec eux à Rio et avec toute une bande de musiciens formidables. Donc c'est très important. Après, il raconte, effectivement, il va au Liban, il cherche des musiciens, il va en Afrique, il cherche des musiciens, il va à Haïti, il fait des concerts à la sauvage pour trouver des...
Il est très savant dans ce qu'il recherche. Ça aussi, ça le définit très bien, j'ai l'impression. Cette légende qu'il a créée, il en a toujours joué. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça aussi qu'il a finalement quand même assez peu donné d'interviews par rapport à d'autres artistes de la variété française? Est-ce que c'est aussi une façon d'éviter de se prendre les pieds dans le tapis sur son histoire?
Non, je crois qu'il est en presse écrite, par exemple, il donne pas mal d'interviews. Après, il n'est pas à l'aise tout le temps. Il est assez parcimonieux, on va dire, pour la télévision, etc. Parce que oui, et puis parce que il vit sa vie, que parfois il peut être excessif, et que parfois il peut continuer la conversation au-delà de ce qu'on lui demande. Que oui, effectivement, il peut boire un verre de trop. Enfin, ces choses-là, hein, qui ne sont pas très contrôlées. Mais si vous prenez des gens de son acabit, on va dire, comme vous voyez Catherine Ringer, qui tourne le dos au président de la République parce qu'elle a envie. Ben, la Villiers, c'est un petit peu la même chose. Hein, vous voyez,
cette image marquera 2024.
C'est formidable en même temps. C'est une liberté extraordinaire.
C'est une immense liberté.
Ouais. Il n'y a pas d'élément de langage avec la Villiers. Vous voyez, il n'y a pas d'élément de langage préparé à l'avance. Il va raconter la même chose à tout le monde, comme un robinet d'eau tiède qui va raconter la même histoire.
Un discours,
il n'a pas ça. Donc, il ne peut pas faire ça.
Un discours peu préétabli, répété, préécrit, ça c'est pas du tout la Villiers. Les Michel Kemper qui recherchent un petit peu à décrypter, à démêler le vrai du faux, notamment dans son livre Les Villiers de la Villiers, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est normal, que ça s'entend, qu'il vit au mieux avec la Villiers, pas trop chercher et laisser vivre la légende? Quelle est votre position là-dessus?
Moi, ma position est très claire par rapport à tous les artistes, c'est-à-dire que je pense que c'est pas la peine. Ça ne sert à rien et que l'essentiel, c'est effectivement qu'il n'y ait pas d'erreurs historiques énormes, qu'il n'y ait pas de... On peut faire un peu de fact-checking pour voir effectivement, si vous voulez, la Villiers dit qu'il a rencontré Bob Marley. Moi, quand il me dit ça, je cherche à savoir si Bob Marley et la Villiers étaient en même temps en Jamaïque et après qu'il les croisait dans la rue ou pas, c'est pas trop mon problème, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait un disque, il a fait des... Il est allé dans des studios, il est allé à Stuff Gong, etc. Et ça, c'est effectif. Si vous voulez, c'est pas grave, parce que de toute façon, un artiste, il est là pour nous faire voyager, pour nous faire rêver, pour nous transporter ailleurs. C'est comme les poètes, comme les conteurs. Et donc finalement, c'est pas très intéressant de savoir s'il a vraiment fait ci ou fait ça, etc. Je pense qu'un artiste a vraiment besoin de construire sa légende. Il a besoin d'avoir un roman de sa vie. Parce qu'il n'y a pas un artiste connu, à ma connaissance, qui n'ait pas menti sur quelque chose de manière à magnifier.
À ce point, vous croyez ?
Oui, bien sûr. On parlait de Gréco tout à l'heure. Ouais. Évidemment qu'il raconte Saint-Germain-des-Prés à sa manière. Hein, donc on n'a pas cherché à vérifier si elle avait vraiment vu un tel ou un tel. Et la vidéo, comme il est excessif et que parfois il part dans son délire, alors évidemment, on cherche à vérifier. Je citais Johnny Hallyday qui au début disait que son père était américain.
Oui.
Il a commencé toute sa carrière là-dessus. Il n'a jamais parlé de son oncle, en fait, qui a été arrêté pour fait de collaboration,
ouais.
qui a été condamné à 9 ans de prison, 8 ans de prison, et que c'est pour ça qu'il est parti en Angleterre avec sa tante. Il dit que non, il est parti faire du ballet avec les cousines.
Oui,
et
oui,
c'est
oui.
normal, après tout. Hein. Ouais. C'est pas grave. Tant mieux, si vous voulez. Tant mieux,
oui,
si Hallyday
oui.
avait un père américain. À l'époque, ça faisait rêver tout le monde.
Ouais.
Il avait ses vestes avec des franges et tout. C'était l'essentiel. Il nous transportait au Texas, au Kansas, ou je sais pas où. Mm. Donc, en tout cas, c'est ça qui est important.
Il nous a fait voyager.
Ouais. Lavilliers, c'est la même chose.
Lavilliers est assez secret sur sa vie de famille. Alors, il aurait 4 enfants de 3 femmes différentes. Qu'est-ce que ça raconte de lui ?
Ben, ça raconte qu'il a eu une vie normale pour un vagabond de sa génération de 68 ans, de quelque part. Hein. Donc, voilà, il ouais. a eu, il a aussi des compagnes.
Normal, quoi.
Avec qui il n'a pas eu d'enfant.
Ouais.
Il a été notamment avec une reine du bodybuilding,
oui.
Liza Lyon, qui était quand même assez formidable.
Ouais.
Où il était le petit français, où il faisait le tour des États-Unis avec elle, qui était la vedette absolue. Donc, il a vécu cette vie assez fantasque, cette vie d'artiste, comme Michelin, comme tout.
Ouais.
Voilà.
Et quelle a été la place des femmes dans sa vie ? Est-ce qu'elles ont été des muses, des inspirations aussi ?
Je ne pense pas.
Ah oui, c'est marrant. Et puis c'est marrant comment vous dites.
Je pense pas, même la notion, si vous voulez, la notion de muse, même avec lui, je suis pas sûre que c'est une quelconque valeur. Lui, ses muses sont ailleurs, dans le vent, dans la mer, il adore la mer, etc. Et ça, c'est une chose. Non, elles ont été plutôt des piliers, j'ai l'impression.
Mm.
Hein? Donc, qui le maintiennent dans une réalité, dans un quotidien aussi. Hein. Je pense que c'est plus cela qu'il a donné, qu'il a attribué. Comme après, évidemment, il a vécu une vie d'homme de son âge, on va dire.
Mmh. Je le disais, pour écrire ce livre avec Bernard Lavilliers, écrire sur place, vous vous êtes beaucoup vu, vous vous êtes beaucoup parlé. Comment ça se passe un moment avec Bernard Lavilliers? Il mange, il boit, il fume, il parle comment? Racontez-moi un moment, un échange le plus simple du monde avec Bernard Lavilliers.
Ça peut dépendre de l'heure. Mais moi j'aime l'Europe aussi.
Alors 19h. Alors 16h. Partons
voilà.
sur 16h.
Non mais moi j'aime l'Europe aussi, donc j'aime bien boire du rhum avec Bernard, a été un plaisir. Hein. Vraiment.
Évidemment, hein. L'abus d'alcool.
Le diplomate, etc. Oui,
pour la santé,
on l'a dit, mais allez-y, racontez-moi l'histoire. On l'a dit, mais c'est bon aussi pour l'imagination, si vous voulez. Donc voilà, et après Bernard. Il fait des détours tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'après il faut recasser, mettre dans l'ordre, etc. Avoir un peu ne pas abuser pour avoir de la lucidité, on va dire.
Ouais.
Mais on est transporté par ce qu'il raconte. Et puis c'est un vrai musicien, donc il raconte qu'il va apprendre tous les Beatles, par exemple. Non, parce que j'ai jamais joué Beatles et tout, donc il a un prof qui arrive et qui va lui apprendre récemment à jouer des chansons des Beatles, enfin je sais pas, des choses comme ça.
Il a encore soif d'apprendre.
Ah, il est très, très, très branché sur la musique et sur les musiciens.
Il a une soif de s'imprégner de tout. Quoi.
Oui, une énorme curiosité. Mm. Parce qu'il va en Argentine, par exemple. Il raconte ses voyages, il raconte les choses, etc. Et puis, lui et moi, on s'entend bien parce qu'on est un peu gauchistes. Donc,
bon.
Oui. Donc, casser du sucre sur les seconds couteaux, sur les pouvoirs, etc., c'est très bien.
Oui.
Ça prend au moins une heure à chaque fois. C'est parfait. Sur l'affreux capitalisme, sur les inégalités, le nouveau gouvernement en Argentine, c'est impeccable.
Ouais.
Bolsonaro au Brésil, ça nous a pris aussi beaucoup de temps.
Parce qu'il
fallait dénoncer cette impudeur du pouvoir brésilien. Alors on est content parce que maintenant il y a à nouveau la gauche au pouvoir. Donc ça prend du temps.
Tout ça en revue, je comprends. Alors qui se cache, Véronique Martaigne, vraiment derrière ces innombrables récits d'aventures, ces rencontres? Un grand sensible, un taiseux, un homme timide? Qui se cache derrière cette légende?
Timide, je ne dirais pas. Mais il a besoin. Je pense qu'il a besoin d'entourage. D'entourage, pas seulement d'entourage de ses amis ou de sa famille, etc. Mais il a besoin d'être entouré.
Donc surtout pas un solitaire, finalement.
Non. Alors, après, évidemment, quand il y a un exercice d'écriture et de recherche, ça, il le dit. Mmh. Quand il va chercher des musiciens, par exemple, il va dans la ville, il va dans les bars, et ça, c'est, je le crois volontiers. Et il écoute les gens jouer, il s'assied.
Oui, et, donc il y a un peu de ça.
Il y a un côté solitaire, forcément, puisque quand on écrit, et que la façon dont il écrit, vous voyez, il n'a pas un stade de 90 personnes.
Que l'artiste, par définition, est un solitaire.
Oui, ben, c'est pas Rihanna, qui a 90 personnes derrière, qui écrivent. Vous voyez, c'est...
Lavilliers est un peu notre Rihanna français.
Non, mais je dis ça parce qu'elle a été une des premières à avoir un staff énorme à écrire pour elle et tout. Mais je veux dire, donc on n'est pas dans cette optique-là. Et oui, il y a une partie solitaire de lui avec lui-même qui peut se laisser embrumer. C'est assez caractéristique. C'est-à-dire qu'il a, c'est un navigateur en fait. Et les navigateurs, à un moment donné, sont toujours assez solitaires.
Oui.
Mais ils ont besoin d'une équipe.
Oui.
Pas seulement une équipe technique, mais des encouragements, des gens à qui ils disent où ils vont, quel cap, etc.
Ouais, je comprends. Il y avait à la fois cette vraie volonté de quitter ce monde ouvrier, de mettre les voiles, on parle de navigation, de se sortir de là, et en même temps, aucune volonté de s'en éloigner dans l'idéologie. Et ça, il a tenu la barre de ça.
Oui.
Jusqu'au bout.
Ah bah,
même s'il a eu une vie qui est quand même très très éloignée, il faut le dire, de ce monde ouvrier à la fin.
Oui, mais ça c'est pas très grave, parce que la parole qu'il porte est une parole qui défend des valeurs sociétales. Et il a jamais renoncé à ça, quoi. Il a jamais dit le contraire. Et il a continué à attaquer ce qu'il considère comme étant le mal capitaliste. Mais il a sûrement raison, comme je vous disais, moi je suis assez d'accord avec lui. Mais disons que il a pas quitté le monde de l'égalité aussi, c'est-à-dire que lui pense qu'effectivement le devoir d'une nation, c'est aussi de non pas forcément de tout le temps privilégier les meilleurs, même s'ils viennent de banlieue, etc., mais d'avoir une notion d'égalité, c'est-à-dire protéger les faibles et trouver des valeurs dans la marginalité aussi, la marginalité, c'est-à-dire des artistes, des gens qui peignent sur des murs, qui font des concerts sauvages, etc., qui font le carnaval et qui font la valeur et la fixité, si je puis dire, d'une société, parce que ça permet de continuer à faire vivre une société.
Comment il la trouve, la société d'aujourd'hui? Il la trouve morose? Il la trouve injuste? Il la trouve comment?
Dur. Il la trouve dur. Parce que l'écologie, parce qu'il était aussi engagé, il s'est engagé au Brésil avec Raoni, le chef indien, il s'est engagé sur pas mal de causes, il a dit, effectivement, mais la société aujourd'hui, elle est effectivement très inégalitaire, l'écart énorme entre les très riches et les très pauvres lui est insupportable, ce qui est normal. Et dur et compétitive et qui a bien envie de gommer justement tout ce qui est flou. Et le flou est créatif. Donc le flou, c'est aussi la poésie, c'est aussi la musique, avec cette espèce de rigueur imposée qui est très insupportable.
C'est un artiste vraiment à part, Bernard Lavilliers. À 78 ans, d'ailleurs, on lui trouverait aujourd'hui un héritier dans le monde de la musique?
Un héritier, non, je trouve que c'est difficile. Mais même la notion d'héritier, elle est quand même assez...
Non mais on aime bien faire ça. Ouais. Viennes et le nouveau Goldman, oui. Bon, et j'en passe.
Oui.
Voilà.
Mais on n'en trouve jamais. À chaque fois qu'on se pose la question, on n'arrive pas à trouver.
C'est vrai.
On se demande quelle est l'héritière de Françoise Hardy. On se creuse la tête, on fait des sujets dans les journaux et tout.
Ouais,
on trouve jamais.
Non, mais voilà. Donc je pose la question chiante.
Non, c'est pas une question chiante. C'est une question évidemment, moi, en tant que critique, je me suis posée mille fois.
Ouais.
Mais on ne trouve jamais, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible. Parce qu'un artiste, que ce soit Lavilliers, que ce soit Alain Souchon, etc., il est quand même très, très unique. On parlait de Ringer. Il y a un héritier au Itami Mitsuko, non. Vous voyez, c'est une question qu'on se pose forcément et à laquelle on ne trouve jamais de réponse.
Mmh. Il dira un jour toute la vérité.
Mais non, jamais de la vie, c'est pas possible.
Il l'emportera avec lui, sa légende.
Oui, bien sûr. Heureusement, oui. Hein, d'ailleurs. Oui.
Votre chanson préférée, votre titre le plus emblématique de lui, selon vous?
Ah, j'en ai plein, mais effectivement, Les Mains d'Or, évidemment, c'est une chanson magnifique. Mmh. Puis là, il la revisite, etc. Il l'a rejouée dans Les Aciéries, etc. Oui, ça, c'est très, très, très porteur de plein de choses de Bernard Lavilliers.
Il vous donne envie de le voir souvent, il vous donne envie de continuer à conter son histoire avec lui.
Ben oui, ouais. je suis l'affaire.
Alors on vous retrouvera peut-être pour un prochain épisode. Merci beaucoup Véronique Mortaigne.
Je vous en prie.
Écrire sur place aux éditions des Équateurs, ce sont donc vos rencontres avec Bernard Lavilliers en mots et en images. Et lui sera sur la scène de la scène musicale le 28 mars avec donc un orchestre symphonique, vous y serez.
Bien sûr.
À bientôt sur RTL. Merci encore.
Merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Bernard Lavilliers. Cet épisode a été réalisé par Tristan Boucher, écrit par Thomas Pierre et programmé par Marie Conqui. Tous les numéros de Confidentiel sont disponibles et à consommer sans modération sur l'appli RTL ou sur rtl.fr.